D'après vous, qu'est-ce qui fait rêver notre monde aujourd'hui? De quoi notre monde rêve-t-il? Est-ce que vous avez des suggestions à faire? Moi, j'en ai une. Notre monde, il rêve d'une grande fusée qui vous permettrait d'aller sur la Lune vous promener le dimanche, d'aller sur Mars faire une colonie. Ça, ça fait rêver. Une grosse fusée. Enfin, je sais pas si c'est de ça que vous rêvez, mais voilà l'idée de pouvoir aller plus haut, hein, de pouvoir s'extraire de notre monde, pourtant si joli, pour aller chercher des cailloux ailleurs. Est-ce que c'est de ça que notre monde rêve, peut-être? Quel est son rêve? Quel est son souhait? Vers quoi veut-il aller? Est-ce qu'il se pose même la question? Alors, on va voir maintenant ensemble l'histoire de Élie, donc d'ouvrir vos Bibles. Premier livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 1. Où est-ce que nous sommes dans l'histoire? Nous sommes du temps des rois. Donc là, on a le Salomon, David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est facile, David, Salomon. Après, il y a le schisme, on avait vu ça dans toute l'histoire du roi, entre le sud, le royaume du sud, qui était Juda, et le royaume du nord, qui était Israël, avec la succession des rois. Et nous avons vu l'histoire du roi Achab, l'histoire de Élie. Et là, maintenant, on arrive à la fin de Élie et le début du prophète Élisée. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on est 850 ans à peu près avant Jésus-Christ. Alors, on va lire la première version. On lit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Alors, qui était Élie? Qui est-ce qui connaît Élie? Vous avez entendu parler des enfants de Élie? Oui, Julia, tu as entendu parler de Élie, le prophète Élie? Oui. Alors, on va se remettre un peu en mémoire qui c'était Élie. Donc, de ce temps-là, c'est quoi qu'on voit ici? Une vache. Ouais. Et de quelle couleur elle est?
Dorée.
Une vache dorée. C'est une statue d'or. Hein? Une statue d'or. Et qu'est-ce qu'on fait là devant cette statue d'or? On fait des offrandes, on fait des sacrifices, on joue de la musique. Nous, on a joué de la musique à l'honneur de Dieu tout à l'heure. On a adoré Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent la vache d'or. Voilà ce qui s'est passé en Israël du temps de Élie. Hein? Et Élie, lui, ça ne lui plaisait pas beaucoup. Et il a été voir le roi Achab. Ah, on n'a pas lu le texte. On va lire le texte. C'est le résumé, pardon. Il a été voir le roi de ce moment-là, le roi Achab, et il lui a dit, maintenant, plus de pluie en Israël jusqu'à ce que je le veuille. Et il a lancé ce défi et il ne tombera plus une goutte de pluie. Et il est parti. C'était, Dieu lui a dit d'aller là, un torrent. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce torrent? C'est quoi ça?
Les oiseaux.
Les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux?
Ils mangent?
Pas du tout. Pas du tout, Maëlia, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent la nourriture à Élie. Hein, Élie, tranquille, il est au torrent, il y a de l'eau qui coule, il boit. Le repas est servi tous les jours, et ça aurait pu durer longtemps. Mais la sécheresse augmente, et un jour, le torrent, qu'est-ce qu'il devient? Il devient sec. Et c'est très dur. Et là, Dieu lui dit à Élie, ben maintenant, tu vas aller dans un autre endroit, tu vas sortir du pays d'Israël. Le pays d'Israël, c'est là. Tu vas partir loin et tu vas aller à Sarepta. Et là, j'ai demandé à quelqu'un de te nourrir. Et il arrive à Sarepta, donc. Et là, il rencontre qui?
Une femme.
Une femme. Est-ce qu'elle est pauvre ou est-ce qu'elle est riche, cette dame?
Elle est riche.
Elle est riche. Non, elle n'est pas riche. Elle est pauvre, elle ramasse du bois. Pourquoi elle ramasse du bois?
Pour faire
à manger. Et parce que, qu'est-ce qu'elle dit, elle a? Il lui reste plus rien. Il lui reste qu'un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui lui reste.
Ah, papa, il nous a déjà regardé ça.
Oui. Et alors, il lui dit, bon, ok, il te reste que ça, mais d'abord fais-moi manger. Et la veuve, elle est d'accord. Parce qu'Élie lui dit, tu vas me préparer un gâteau avec cette huile et cette farine, et le pot ne se videra pas, et la farine ne se videra pas tant que durera la famine. Et donc, ils ont eu de l'huile, ils ont eu de la farine, et ils ont pu manger tous les jours. Ça, c'était le deuxième miracle qu'avait fait Élie. Le premier miracle, c'est qu'à sa parole, il avait prié Dieu. Et il ne pleuvait plus. Non, il ne pleuvait plus. En Israël, du moins. Et là, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille quand il était là? Le fils, qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé malade jusqu'à ce qu'il meure. Et là, la maman n'était pas contente. Tu es venu dans ma maison et voilà, maintenant, mon fils est tombé malade, mon fils est mort. Mais Élie, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu. Il s'est couché carrément sur l'enfant pour qu'il se réchauffe. Et troisième miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. L'enfant est revenu à la vie. Tout ça, c'est la vie de Élie qui nous est racontée. Après, c'était toujours la famine, mais là, 3 ans étaient passés et c'était le temps de mettre fin au régime sans eau. Il y avait toujours donc les prophètes de Baal qui avaient chassé les prophètes de l'Éternel. Et là, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit à ce peuple? Il lance un défi. Quel est le défi? On va voir qui c'est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Est-ce que c'est Baal? Ou est-ce que le mot d'ordre? Ou est-ce que c'est l'Éternel? Et on vient dire au prophète de Baal, allez-y, celui qui brûle l'Holocauste, celui qui fait brûler l'Holocauste sera le vrai Dieu. Et donc, qui c'est qui commence ici à faire ça? Hein? Les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal. Est-ce qu'ils vont arriver à faire tomber le feu du ciel? Est-ce qu'ils vont faire des efforts? Oui, pendant des heures, ils sont là, ils s'acharnent, ils crient, hein, ils se font du mal avec des couteaux. Et après, intervient Élie. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met son holocauste. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il ramasse les pierres. Et qu'est-ce qu'il fait sur la diapo?
Il met de l'eau
partout. Au moins, comme c'est la canicule à ce moment-là là-bas, comme ici, et c'est la sécheresse, moindre étincelle, tout peut s'allumer. Mais pour éviter ça, lui, il met de l'eau. Hein, au moins, pas de risque que ce soit accidentel que le feu s'allume. Et après, il implore Dieu. Et qu'est-ce qui se passe?
Il y a du feu.
Le feu du ciel descend et consume tout, même les pierres. Tout brûle. Et alors, qu'est-ce que dit le peuple à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont encore le doute de qui est le vrai Dieu? Ben non.
Personne.
Ben non. Et qu'est-ce qu'il crie? L'Éternel est le seul Dieu. L'Éternel est le seul Dieu. Et donc, ils vont supprimer tous les prophètes du Baal dans la foulée. Et là, c'est le roi Acab. Et là, c'est Élisée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire, Élisée? Élie va dire, maintenant, je vais prier et il va pleuvoir. Donc, ça, on était au quatrième. Voilà le cinquième miracle. La pluie. Et qu'est-ce qu'il fait? Élie va prier et il envoie son serviteur pour regarder. Est-ce qu'il monte à la montagne? Est-ce qu'il y a des nuages ou pas qui arrivent?
C'est qui?
C'est le serviteur qu'a envoyé Élie pour, pendant que lui il prie. Il envoie quelqu'un pour regarder si les nuages arrivent. Et qu'est-ce qu'il voit? Là, le mont Carmel, c'est le bord de la mer.
Rien.
Rien du tout. Et il revient. Pas de nuages. Est-ce que Élie va se décourager?
Non.
Non, il prie encore une deuxième fois. Et après, il envoie le serviteur. Et le serviteur lui dit,
non.
Toujours rien. Et il prie non pas une fois, non pas deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et la septième fois, qu'est-ce qui se passe?
Un nuage.
Dieu répond à la prière de Élie et cet nuage devient vite un immense orage qui arrive et qui se forme et Acab dit à Élie dit à Acab, allez, dépêche-toi de rentrer chez toi parce que tu vas arriver et tu seras tout mouillé. Et c'est ce qui se passe effectivement. Mais qui c'est cette dame?
C'est la femme de
Acab. Comment elle s'appelle?
Jézabel,
elle n'est pas du tout contente. Élie pensait que ça y est, tout allait rentrer dans l'ordre. Le roi Acab allait adorer le vrai Dieu. Mais ce n'est pas ce qui se passe parce qu'elle, elle a d'autres plans. Déjà, attraper Élie pour le mettre à mort. Et ensuite, elle a fait toutes sortes de manigances, de manipulations. Et Élie, Jézabel, c'était vraiment l'ennemi de Élie. Et il avait beaucoup d'ennemis dans le pays. C'était pas gagné. Acab est mort et c'est son fils qui est venu sur le trône. On avait vu ça. On arrive. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce roi, le fils? Il est monté sur le trône, mais peu de temps après, il est tombé malade. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Donc ça, je parle aux adultes parce que c'est une histoire qui est moins connue. Qu'est-ce qu'il a dit? D'aller consulter qui? Non, non pas. Il a dit, allez demander, consulter le dieu de Écron. Il a dit, allez consulter le dieu de Écron pour savoir si je vais mourir ou pas. Et donc, à l'extérieur, un dieu des Philistins, là, ils ont été une idole. Il a envoyé des soldats qui ont été consulter le dieu de Écron. Et puis là, il les arrête. Oh là! Il y a un Dieu en Israël, pas la peine d'aller courir à Écron chercher une idole quand on a le Dieu vivant avec nous. Et il les renvoie. Et le roi Akazia, il est fâché contre ça et il dit, il envoie une troupe de soldats pour aller s'attraper Élie. Hein. Et cette troupe de soldats arrive et dit, Élie, descends de ta montagne. Et il dit, serviteur du Dieu vivant, descends de ta montagne. Et il dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu du ciel tombe sur vous. C'est ce qui se passe. Et c'est déjà la sixième miracle qui se produit là. Le feu du ciel tue carrément tous ses soldats. Et c'est pas arrivé une fois, c'est pas arrivé deux fois. La troisième fois, il a été plus raisonnable. Il a parlé gentiment à Élie. Et Élie a daigné venir dire au roi Akazia, bah écoute, tu vas mourir, c'est comme ça.
Qui va mourir?
Le roi Akazia, parce qu'il n'était pas un bon roi. Et on en est là. Donc, c'est ce qui se passe maintenant, verset 12, je lis. Élie dit à Élisée, reste Élisée, donc c'était, il n'a pas vu le... On n'a pas vu l'étape dans la grotte. Élisée, c'était le nouveau serviteur que Élie avait pour pas qu'il soit tout seul. Dieu lui avait envoyé un serviteur. C'est dommage d'avoir froissé ses feuilles de dessin, un noir. Élie dit à Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il allait jusqu'à Bethel. Donc Élie doit aller à Bethel et Élisée dit non, je te quitterai pas. Et donc il part de Gilgal, il va jusqu'à Bethel. Gilgal, c'était un camp avant, quand Josué était venu conquérir ils avaient passé le Jourdain, ils avaient été à Gilgal, ils avaient établi leur camp là, Josué était venu faire la conquête de Canaan. Et Bethel, c'était un autre lieu, haut lieu, où devait aller Élie. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel, donc Bethel, c'était la maison de Dieu, là où Dieu avait parlé à Jacob, il y a bien longtemps. Donc les prophètes sortent de la ville vers Élisée et lui disent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur du dessus de la tête ?» Et donc Élisée répond, « Oui, je le sais, moi aussi je le sais. » Ils discutent, « Moi aussi je le sais. » Taisez-vous, n'en dites pas plus. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici. Reste ici, Élisée. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Donc il va à un autre endroit qui s'appelle Jéricho. Et Élisée, lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, je te suis toujours. Taisez-vous. Dit-il au prophète, moi, je te suis. Et ils arrivent ensemble et ils marchent. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ils vont à Jéricho, de Bethel, ils reviennent à Jéricho, ils reviennent en arrière, ils ont fait un triangle. Et là, à Jéricho, même scénario, les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchent d'Élisée et lui disent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Et il répond, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et encore, ça se répète une troisième fois. Élie dit, reste ici Élisée, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Mais c'est la même chose, même réponse de Élisée, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. Ils poursuivent le chemin et ils arrivent au Jourdain. Il y a 50 membres de la communauté des prophètes qui viennent se poster face à face avec eux. Ils sont là-bas, derrière. Ils sont devant le Jourdain. Et ils s'arrêtent au bord du Jourdain. Et il prend alors son manteau, il enroule et il frappe l'eau. Verset 8. Elle se sépare. Et ils traversent tous deux à pied sec. Ils traversent l'eau, la rivière arrête de couler et ils passent tous deux et ils traversent et les autres restent derrière, bien sûr, ils n'osent pas les suivre. On va s'arrêter là maintenant, un moment, faire un petit commentaire. Donc Élie le prophète, c'était celui qui était à fond pour l'Éternel. On a compté 6 miracles. Je voulais faire compter les enfants, combien il y avait de miracles, on en était à 6. Et avec celui-là, ça en fait 7. Le fait que les eaux se soient arrêtées, qu'ils soient passés à pied. Voilà, Élie est un homme de prière, Élie est un homme de foi. Il a la foi. Ce passage-là, on peut dire, est-ce que vous connaissez l'expression « ton pied, mon pied » ? Qui connaît cette expression « ton pied, mon pied » ? Ton pied, mon pied. Dans le pays de Jackie, là-bas, c'est comme ça que disent les dames quand elles disent « Je vais te suivre partout, mon mari, pour voir où c'est que tu vas. Tu pars le matin, tu reviens le soir, mais où est-ce que tu vas ? Ton pied, mon pied. Là où ira ton pied, là où ira aussi mon pied. » Et il fait du « ton pied, mon pied » avec le prophète Élie, Élisée. Il le suit partout. Hein. Il traverse donc, c'est assez curieux parce qu'il traverse le Jourdain en arrière. Et ils ressortent, Élie ressort complètement du pays de Canaan à ce moment-là. Il retraverse le Jourdain. Il retraverse pour être enlevé. Et pourquoi, d'après vous, Élie le suit partout? Élisée suit partout Élie. Pour quelle raison? Est-ce que vous auriez une proposition? Ouais, Maïla, tu as une proposition?
Pourquoi?
Pourquoi Élisée suit Élie partout? Pour quelle raison? Quelqu'un a-t-il une petite idée? Pourquoi il ne veut pas le lâcher?
Et oui, parce qu'il est, il le suit, il l'aime et il ne veut pas le laisser partir. Hein. Jusqu'au bout, je veux rester avec toi. Hein. Jusqu'au bout, je resterai avec toi tant que je peux, tant que je peux, tant que je peux. Hein. Ton pied, mon pied. Et alors maintenant, la suite du texte. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée répond, qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'il continue à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre et Élie monte au ciel dans un tourbillon. Élisée regarde tout en criant « mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits, les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, frappe à l'eau et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappe à l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser à pied sec. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent jusqu'à terre devant lui et lui dirent, il y a des serviteurs ici, 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur Élie? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent tant et si bien qu'à la fin, Élisée dit, bon, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, sans le trouver. Et lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller? Alors, j'honorerai celui qui m'honore. C'est ainsi que j'ai donné ce titre pour le message. Le titre, c'était les chariots de feu. J'ai oublié de le dire au début. J'honorerai, vous l'avez lu sur la diapo, j'honorerai celui qui m'honore. Qu'est-ce que tu veux ? Avait demandé Élie à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le double de ton esprit soit sur moi. Et donc Élisée monte dans un tourbillon de feu. Je manque une diapo. C'était la première qu'on avait vue tout à l'heure. Il y a le tourbillon de feu qui prend Élisée. Qui prend Élie dans le ciel et l'amène loin, et puis Élisée se retrouve là, tout seul. Il déchire son habit et il prend à la main le manteau qu'Élie a laissé tomber. Il le prend, il frappe le Jourdain, et comme pour Élie, les eaux s'arrêtent et il peut passer à travers le Jourdain. Et tout le monde dit, tous les prophètes disent, voilà, l'esprit qui habitait Élie habite maintenant Élisée. J'honore celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Dieu honore celui qui nous honore. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, qu'il y ait sur moi le double de ta part. Et donc, ils ont été séparés. Élie avait dit, si tu me vois partir, ce sera exaucé. Et donc Élisée a vu Élie partir dans le ciel. La prière et la demande a été exaucée. J'ai quelques questions pour nous. J'ai dit Dieu honore celui qui l'honore. Est-ce que Élie a été honoré à ce moment-là? Je crois que oui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté dans un chariot de feu. Qui est-ce qui est déjà monté dans un chariot de feu? Personne. Oui, une fête foraine, oui, mais un chariot de feu, non. Et le chariot de feu, il est monté où? Hein? Dans le ciel. Oui, il est monté dans le ciel, le chariot. Et là, il a vraiment été à l'honneur, hein, le prophète Élie. Déjà, il n'est même pas mort. Il est monté dans le ciel. C'était la deuxième personne de la Bible qui n'est pas mort. C'était Enoch. Enoch. Enoch, on avait vu de lui qu'il marchait avec Dieu et Dieu l'avait pris. On ne sait pas comment. Mais pour Élie ici, on sait comment ça s'est passé. Hein? Il y a un tourbillon et Élie est monté dans un chariot de feu. Et vraiment, Élie a été mis à l'honneur. Hein?
Il ne s'est pas brûlé.
Oh, ça y est.
Voilà. Il s'est pas brûlé.
Non, il ne s'est pas brûlé. Il ne s'est pas brûlé du tout. Il est monté dans le chariot de feu. Est-ce qu'il a été honoré aussi, Élisée? Oui, de quelle façon il a été honoré? Il a reçu le double de l'esprit de Élie. Hein? Sa prière a été exaucée. Est-ce que Élisée méritait ça? Est-ce qu'il avait fait quelque chose de spécial pour mériter ça? Hein, il avait rien fait de particulier. Lui, c'était le serviteur de Élie, il le suivait partout. C'est tout ce qu'il faisait, c'était le suivre. Hein? On ne peut pas dire qu'il a eu des mérites particuliers, mais il a été honoré. Qu'est-ce qu'Élisée cherchait en demandant une double part de l'esprit d'Élie? Hein? Il avait soif, il avait envie de Dieu, Élisée. Il avait envie de Dieu, il avait envie de ce qu'avait envie, cette relation qu'Élie avait avec Dieu, il voulait la même, il en voulait même davantage. Si Dieu vous posait cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous répondriez? Je ne vous demande pas de répondre, mais je vous demande d'y réfléchir. Supposez, Dieu vous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous allez répondre? Vous pouvez réfléchir à ça, hein. Que répondriez-vous? Vous avez trouvé la réponse? Vous avez votre demande que vous feriez à Dieu? Est-ce que vous l'avez? Il faut se préparer, hein. Si quelqu'un, Dieu, vient vous interroger dans un songe et qu'il vous demande, comme Salomon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ça peut être cette nuit, hein, que Dieu vous visite et qu'il vous dise, bon, mon enfant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? J'ai une autre question. Pourquoi les prophètes sont partis chercher Élie à la fin de l'histoire? D'après vous. Pourquoi ils sont partis chercher Élie? Moi, je pense qu'ils ne croyaient pas qu'Élie soit vraiment parti. Pourtant, on leur avait dit, c'est aujourd'hui qu'Élie est enlevé. Mais ils n'avaient pas beaucoup de foi. Hein. Ils n'avaient pas beaucoup de foi. Ils disaient, c'est vraiment pas la peine d'y aller. Élie est vraiment parti. Nous aussi, souvent, on manque de foi. Même quand Dieu parle, on n'écoute pas beaucoup ce qu'il dit. On va s'arrêter là pour les enfants. Pour les adultes, on va avoir une petite prolongation. Donc, j'ai préparé des feuilles. Je vais laisser à l'écran.
Donc vous allez pouvoir avoir deux exercices au choix, soit de colorier le départ et les lignes, je vais remettre l'écran à l'écran l'image, soit il y en a un autre tableau qu'une dame qui s'appelle Esther, qui était dans l'église avant, avait fait, et qui représente aussi Élie, avec le départ dans le chariot. C'est une autre représentation. On peut avoir beaucoup d'imagination pour ça. Peut-être que vous avez votre imagination à vous aussi. Élie qui monte. Bon, là, il ne perd pas le manteau. Et dans l'autre, on a vu qu'il perdait le manteau. Donc, je remets l'autre. Vous pouvez prendre les crayons et vous pouvez faire le dessin. Voilà. Donc vous avez les choses ici. Il y a une feuille blanche si vous voulez faire le dessin ici.
C'est moi qui l'ai pris la feuille blanche,
j'ai
pas
besoin. Tiens. Qui dit qu'il le veut ? Il a le veut. C'est la même chose que ça, mais à colorier. Bon. Un peu de travail. Bon, nous, on va continuer un peu les adultes. Hein. Merci les enfants pour votre attention. Alors, l'histoire continue. Elle n'est pas finie. Qu'est-ce qui se passe après ? Les habitants de la ville disent à Élisée, Jéricho donc, « La ville est bien située, comme on le voit, mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, Élisée, « Apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. » Et ils apportèrent le plat neuf et du sel. Il alla vers la source d'eau de la ville et y jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. » De là, il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors, deux ours sortirent de la forêt et ils déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il monta au Carmel, puis il retourna à Samarie. Donc, on a, à travers ces deux miracles de Élisée, on a un petit peu une image de ce qui va se passer en Israël. On a vu qu'Élisée fait le chemin inverse qu'avait fait Élie, qui était parti d'Israël à lever, et lui, il revient, il repasse le Jourdain, exactement comme avait passé avant lui Élisée, exactement, et là il va repasser le Jourdain comme avait fait Israël quand il était venu pour faire la conquête de Canaan à pied sec. À la fois il va avoir un ministère de bénédiction et à la fois un ministère de jugement. On voit qu'il va à Samarie et il va avoir également, contrairement à Élie, une vie sociale. Il ne va pas être seul, il va être entouré d'une communauté de prophètes qui vont... Attention, il ne faut pas toucher. Je vais débrancher mon image. Donc il est question de cette ville de Jéricho qui avait été détruite lors de la conquête de Canaan. Et Josué avait posé une malédiction... Josué avait posé une malédiction sur Jéricho, vous vous souvenez, hein? Maudit soit celui qui relèvera cette ville, il jettera les fondements au prix de son premier-né, il en posera au prix de son plus jeune fils. Et on avait lu, quand on avait vu cette histoire des rois, qu'un homme, Yel, donc du temps de Akab, c'est quelques dizaines d'années auparavant, il avait rebâti la ville de Jéricho au prix de ses deux fils.
mais on apprend que les eaux de Jéricho demeurent stériles. Elles ne produisent pas la vie, ces eaux-là. Et donc Élisée va purifier ces eaux et enlever toute trace de malédiction à Jéricho. Jésus visitera Jéricho des siècles plus tard, et c'est là à Jéricho qu'il va guérir Bartimée, l'aveugle, qui criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Et c'est là également à Jéricho que Jésus va rencontrer Zachée, et la vie de Zachée va se trouver bouleversée. Une bénédiction que la venue de Élisée. Et également un jugement. Les gamins qui se moquent du prophète parce qu'il est chauve, apparemment il n'avait pas de cheveux, alors on le voit dans les images, il s'est représenté comme n'ayant pas de cheveux, il est chauve et on se moque de lui parce qu'il est chauve. Et se moquer du prophète de l'Éternel, c'est se moquer de Dieu lui-même. Et donc il y a ce jugement qui tombe sur eux, ces ours qui viennent et qui attrapent 40 de ses enfants. Ils étaient vraiment nombreux. Élie avait fait une prophétie. L'Éternel avait fait une prophétie à Élie que voici en roi 19:15. Il avait dit quand il était à la montagne de Dieu à Horeb avant de repartir, Dieu avait dit à Élie, en roi 19:15, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Élisée avait un rôle également de rendre, d'accomplir la justice divine. Et il y a les deux côtés à son ministère, un côté de bénédiction évident, et un côté également de jugement. Comment cette histoire nous parle de Jésus-Christ? Jésus-Christ sera aussi élevé à la vue de ses disciples. Si Jean-Baptiste est le nouvel Élie qui accomplit la prophétie, Jésus de Nazareth sera le nouveau Élisée qui va succéder à Jean-Baptiste. Lui aussi va être entouré de disciples, lui aussi va faire du bien, s'intéresser à tous, mais il sera intraitable. Jésus sera intraitable envers les hypocrites. Le titre que j'avais donné à la première diapo, vous savez, c'était les chariots de feu. Pourquoi ce titre, les chariots de feu? Vous vous êtes demandé pourquoi c'est au pluriel. C'est bizarre. Alors, c'est pas moi qui ai choisi le titre. C'est un enseignant britannique qui s'appelle Andrew Zach et qui a préparé ce travail pour nous. Je l'ai rencontré avec Patrick en novembre dernier. Je pense que c'est à cause du film. Est-ce que quelqu'un a vu, se souvient de ce film, Les Chariots de Feu? Les Chariots de Feu, c'est un film des années 80. Bon, moi j'étais là dans les années 80, mais peut-être vous n'étiez pas nés. En 81, il est sorti. C'est un film très britannique. C'est pour ça qu'il y a ce chariot de feu. Il y a toute une histoire là. Il faut être anglais pour comprendre. En tout cas, ça raconte l'histoire vraie d'un missionnaire presbytérien, un athlète écossais, Eric Liddell, qui vivait au début du XXe siècle. Il était champion de 100 mètres, imbattable. C'était à coup sûr, il avait un collègue aussi avec lui, qui était dans le même cas que lui, un homme extrêmement rapide. À coup sûr, c'était une médaille pour les Jeux Olympiques de Paris en 1924, que cet homme-là. Mais hélas, ou heureusement, ou fortuitement, Dieu avait voulu que la finale du 100 mètres tombe un dimanche. Or, Eric Liddell était un homme pieux et pour lui, pas question de courir un dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur où on honore, où on loue, où on adore Dieu. Je ne cours pas le dimanche. Tant pis pour la médaille. Il avait décidé ça. Et le roi, tout le monde, les médias, vous imaginez, comment tu veux pas courir? Le roi avait été le supplié de courir. Lui, il avait dit non, pas question. C'est dimanche, je cours pas un dimanche. Alors, on lui avait proposé de courir un autre jour. Et donc, il y avait le jeudi qui suivait. Il y avait la course de 400 mètres. Et donc, il s'est présenté pour faire le 400 mètres à la place du 100 mètres. Et juste avant le départ, il y a un journaliste américain qui lui glisse un petit mot, juste avant là qu'il était sur la ligne pour se préparer pour le départ, il glisse un petit mot dans la main, et sur ce petit mot, il est marqué le verset de 1 Samuel 2:30, j'honorerai celui qui m'honore. Et à la surprise générale, donc, Eric Liddell, il a terminé en tête de la course et il a même battu le record du monde du 400 mètres. C'est un encouragement pour nous d'honorer notre Dieu par notre vie. Honorons Dieu par notre vie et nous pouvons avoir l'assurance que lui aussi, il nous accordera, il nous mettra à l'honneur en temps voulu et il nous accordera ce qui devrait être le rêve de toute l'humanité. Non pas aller dans une fusée sur la planète Mars, mais aller au-devant du Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra sur les nuées. Actes chapitre 1, verset 11, Thessaloniciens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 15. Des promesses qui sont là. En ce jour-là, Dieu mettra à l'honneur tous les croyants, tous ceux qui ont cru en lui. Honorons Dieu par notre vie et soyons certains que Dieu nous honorera le moment venu, comme il l'a fait pour Élie et comme il l'a fait également pour Eric Liddell, plus proche de nous. Une deuxième application pour nous, n'hésitons pas à demander à Dieu ce que nous avons besoin. N'hésitons pas à demander ce que nous avons besoin ou ce à quoi nous aspirons pour vivre une vie qui honore Dieu. C'est ce qu'avait fait Élisée. Il avait demandé, il n'avait pas eu peur, il avait demandé, j'aurais besoin de ça. Avec ça, j'ai envie, j'aspire à ça pour honorer Dieu avec ma vie. Alors, je vous propose de prier maintenant. Notre Père céleste, tu as déclaré, celui qui m'honore, je l'honorerai. Et Seigneur, merci de cette possibilité que tu nous laisses de pouvoir t'honorer à travers toute notre vie, être fidèle à toi dans les bons et dans les mauvais jours, toujours t'avoir à la première place, comme Élie. Qui avait l'Éternel, son Dieu, à la première place et qui n'avait pas peur de perdre sa vie. Merci pour l'exemple de Élisée également, qui a demandé le double, la part du fils aîné à Élisée. Il voulait le double de ce que possédait Élisée. Et il n'a pas eu peur de faire cette demande et cette demande a été acceptée. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons te demander pour que nos vies t'honorent, pour que nos vies soient toutes à ton honneur. Merci parce que tu exauces les prières au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'exemple de ces deux hommes du passé à lequel tu nous parles encore aujourd'hui dans nos difficultés, dans nos défis, dans notre vie qui est des fois pas facile du tout. Nous voulons, Seigneur, rester fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, jusqu'à ce que tu révèles la beauté de ton Église. Dans le nom de Jésus, Amen.